Alphonse Karr, Les Willis, 1856. À la fin d'une journée d'automne, devant la maison du garde général Wilhelm Gulff, des filles et des garçons valsaient joyeusement. Des jeunes gens jouaient, l'un du violon, l'autre du cor. La forêt devenait encore plus silencieuse. Un vent léger, qui faisait de temps en temps frissonner le feuillage, avait cessé d'agiter les arbres. Le soleil ne laissait plus à l'horizon qu'un reflet de pourpre qui éclairait encore obliquement la clairière dans laquelle on dansait et colorait d'une vive teinte rose les visages des danseurs. Après une valse finie, Anna Gulff prit la parole. Il n'est pas juste, dit-elle, que le pauvre Henri passe toute la journée à souffler dans son corps sans valser au moins une fois. Conrad va jouer seul quelque temps et Henri pourra prendre part à la danse. Et pour le récompenser de la fatigue qu'il a prise à nous faire valser, ajouta la jolie Geneviève, nous déclarons qu'au mépris de tous les engagements pris d'avance, il a le droit de choisir celle de nous qui lui paraîtra la plus belle et de valser avec elle deux fois de suite. Anna Gulff devint toute tremblante. Elle devait épouser Henri. C'était un projet dès longtemps formé entre les deux familles. Mais Henri, jusque-là, n'avait presque jamais paru distinguer la fille du garde général. Anna Gulff aimait Henri. Qui ne l'eût aimé? C'était le plus beau et le meilleur garçon du pays. Pas un chasseur n'était plus adroit ni plus audacieux. Et le prince avait promis de l'élever au grade de garde général que son beau-père lui devait résigner lors de son mariage. De son côté, Anne était une bonne et jolie fille qui, depuis la mort de sa mère, était à la tête de la maison du garde général, restée veuve avec deux enfants, Anna et Conrad. Pas une seule maison ne paraissait si propre et si bien tenue. Pas une, avec un revenu borné, n'offrait un tel aspect d'aisance et de bonheur. Anna était l'idole de son père et de son frère. Ils l'appelaient leur bon ange. Elle avait en effet quelque chose des anges. Son corps élancé, flexible, sa jolie tête un peu pâle, ses longs cheveux noirs appliqués en bandeau sur son front, et ses yeux d'un bleu sombre, plein de tendresse et de mélancolie, semblait, par un instant secret, faire pressentir qu'Anna Gulff, ange du ciel, n'avait été que prêtée à la terre et qu'après avoir, comme une bienfaisante rosée, donné à tout ce qui l'entourait de la vie et du bonheur, elle déploierait ses ailes et retournerait dans sa céleste patrie, laissant au cœur de ceux qui l'avaient aimée cette amertume qui semble être une condition nécessaire de tout bonheur humain. Henri, sans hésiter, vint prendre la main d'Anna, dont le cœur battait à peine, tant elle était oppressée de crainte et de plaisir. Conrad fit résonner l'archet, joua une valse composée par Henri, et les valseurs partirent. Mais la lune commençait à monter derrière les arbres, et sa lueur blanche paraissait au-dessus de leurs cimes. Il y avait à cette heure tant de calme, tant de solennité dans le recueillement de la nature, que l'on cessa de valser, et que, rapproché devant la porte de la maison où le vieux Gulff fumait tranquillement en regardant les jeunes gens, tous les danseurs se laissèrent aller à une conversation plus grave et plus intime. Tout à coup, Henri et Anne, qui étaient restés en arrière, s'approchèrent du vieillard et Henri lui dit: Mon père, nous nous aimons, donne-nous ta bénédiction. Tous deux s'agenouillèrent. Wilhelm Gulff les bénit et demanda pour eux au ciel de plus puissantes bénédictions. Conrad vint serrer la main de Henri. Henri donna à Anna Gulff un bouquet de bruyère qu'il avait à la main. Anna entra brusquement dans la maison et se réfugia dans sa chambre, où elle put donner un libre cours aux larmes de bonheur qui l'étouffaient. De ce jour, ils furent promis et l'on s'occupa des préparatifs du mariage. Mais un jour, Henri arriva sombre et triste chez le garde général et lui montra une lettre qu'il avait toute froissée. Un oncle mourant à Mayence le priait de venir lui fermer les yeux. Anna lui dit « Oh, n'oubliez pas et revenez bien vite !» Elle ne dit pas un mot de plus, car elle lui priait de ne pas partir. Cette nouvelle lui avait serré le cœur. Les plus funestes pensées se présentaient en foule à son imagination. Le bonheur est une chose si fragile. Il y en a si peu de réservés à l'homme que ce qu'il peut avoir lui semble toujours pris sur la part des autres, qui se cachent comme un voleur pour en jouir et n'ose être heureux que tout bas. Le père Gulf reçut la nouvelle sans s'émouvoir. Il dit à Henri « Bon voyage, mon fils, et reviens auprès de moi aussitôt que tu seras convenablement acquitté des devoirs que t'impose la nature. Quand pars-tu ? » « Je partirai cette nuit, dit Henri, pour joindre la voiture qui passe sur la route à 8 heures d'ici demain matin. » « Prends ta carabine, ajouta le vieillard. » Vers minuit, en effet, Henri se mit en route, le sac sur le dos et le fusil sous le bras. Il fit un détour, car, avant de quitter le pays, il voulait voir encore une fois la maison d'Anna et la lueur de la veilleuse qui brûlait dans sa chambre. Comme il approchait, il cueillit quelques brins de bruyère blanche et en tressa une couronne pour la pendre à la fenêtre de sa bien-aimée. Il écarta doucement les branches des coudriers qui entouraient la maison et plaça sa couronne. La veilleuse, à travers les rideaux, éclairait la petite chambre d'une lueur mystérieuse. Henri rompit la branche de coudrier qui touchait le plus près la fenêtre et l'emporta. Puis il partit lentement, se retourna quelquefois, s'arrêta longtemps à l'endroit où le détour du sentier allait lui cacher la maison éclairée par la lune, et disparut. Le lendemain matin, dès que le soleil glissa ses premiers rayons roses dans la petite chambre, Anna ouvrit sa fenêtre. Ses cheveux étaient en désordre et sa robe froissée. Elle avait pleuré tout le soir et s'était endormie de lassitude sans se déshabiller. Elle trouva la couronne blanche, la porta à ses lèvres et la serra sur son cœur. À chaque relais, Henri envoyait une lettre. Mais quel que fût son chagrin, c'est pour celui qui reste que l'absence a le plus d'amertume. Et en peu de temps, la pauvre Anna perdit la teinte rose de son visage. Il arriva un moment où les lettres devinrent plus rares, puis on n'en reçut plus du tout. Anna ne se plaignait pas, mais ses joues et ses yeux se creusaient. Elle pleurait en silence dans sa chambre. Elle devenait sombre et farouche, et fuyait même la société de son père et de son frère Conrad. Enfin, elle devint tout à fait malade. Conrad avait écrit 4 fois à Henri sans recevoir de réponse. Un matin, il partit pour Mayence. 2 mois après, il revint sur un chariot blessé, pâle. Au bout de quelques jours, il mourut, tué par Henri. Voici ce qui était survenu. En arrivant à Mayence, l'oncle s'était trouvé moins malade que Henri ne s'y attendait. Sa ressemblance avec son père avait comblé de joie ce parent qui attribua sa prochaine convalescence à l'arrivée de son neveu. Cet oncle était fort riche et de ses nombreux enfants n'avait plus qu'une fille très belle qu'il imagina de faire épouser à Henri. Celui-ci n'osa refuser tout d'abord, prit du temps pour demander le consentement de sa mère et lui écrivit de le refuser. Mais dans le temps que la réponse mit à venir, il s'était habitué à sa cousine et à la fortune, et il ne fut pas médiocrement enchanté, au lieu de la lettre qu'il avait demandée à sa mère, d'en recevoir une où elle lui peignait tous les avantages de l'union qu'il était à même de contracter. Il en vint, au milieu des plaisirs d'une grande ville, à oublier Anna et à regarder les engagements sacrés qu'il avait pris avec elle comme un jeu d'enfant auquel devait renoncer l'homme raisonnable. Conrad était arrivé le jour du mariage de Henri avec sa cousine. Il avait fait de vifs reproches à son ancien ami et, exaspéré de ne pouvoir le fléchir par la peinture de la tristesse et des souffrances de sa sœur, il l'avait insulté et provoqué en public. Il s'était battu et Henri lui avait donné un coup d'épée. Anne ne pleura pas, mais ses larmes retombèrent sur son cœur et la brûlèrent. De ce moment, elle se consacra entièrement à soigner le petit Kulf, bien abattue de la mort de son fils, et à prier. La prière est le refuge du malheureux. C'est un dernier appui quand tous les appuis sont brisés. C'est un lien sacré entre l'homme et la divinité. Henri se trouva maître d'une grande fortune et époux de la plus jolie femme de la ville de Mayence. Tout était nouveau pour lui dans la vie de luxe et le plaisir qu'il se menait à la ville. Un an après son mariage, cependant, son beau-père mourut et sa femme, nouvellement mère, désira se retirer quelque temps à la campagne. Henri acheta un château à quelques lieues du séjour du père Gulf et y passa toute la belle saison. Pendant ce temps, Anna acheva de s'éteindre et mourut sans douleurs apparentes. On l'enterra avec la couronne blanche que Henri avait attachée à sa fenêtre la nuit de son départ. Comme un soir Henri revenait d'une longue partie de chasse, il s'égara dans la forêt et n'imagina pas de meilleur moyen de retrouver sa route que de gagner la maison de sa mère. De là, il lui devenait facile de s'orienter. La première moitié de sa vie s'était écoulée dans cette partie de la forêt et pas un sentier, quelque petit qu'il pût être, ne lui en était inconnu. Il fallut passer devant la maison où le père Gulf restait seul avec une vieille servante. C'était encore une belle soirée d'automne. La lueur du soleil couchant éclairait encore obliquement la clairière. Henri soupira et doubla le pas. Il eût marché bien vite s'il eût pu entendre dans la maison le pauvre vieillard qui veillait la nuit, priait pour son fils et pour sa fille et disait « Henri, Henri, toi qui as tué mes deux enfants, sois maudit, sois maudit. » La forêt était plus silencieuse et plus mystérieuse que jamais. Dans le sentier que suivait Henri, elle devenait à chaque instant plus touffue et plus sombre. La lune avait peine à glisser de temps en temps un pâle et furtif rayon à travers les branches. En vain, Henri voulait chasser les impressions pénibles qui se réveillaient dans son esprit. En vain, il se rappelait sa femme, son enfant, tous les plaisirs qui l'entouraient. Le souvenir d'Anna et des jours si heureux, si purs de son amour jetait un crêpe funèbre sur toutes ses autres pensées. Par moments, un vent léger apportait de loin le parfum des chèvrefeuilles fleuries dans la forêt. En marchant toujours, il lui sembla que ce vent apportait aussi par bouffée quelques mesures vagues et singulières d'un chant qui ne lui était pas inconnu. Il s'avança et s'arrêta tout à coup en frissonnant. Il fallait quelque danger extraordinaire pour faire ainsi trembler Henri, le plus brave des chasseurs de cette forêt. Mais cependant, il n'arma pas son fusil, car ce qui l'effrayait n'avait rien d'humain. C'était quelques mesures bien distinctes de la valse qu'il avait autrefois composée et que jouait Conrad le jour où le vieux Gulf avait béni Henri et sa fille. Il fit le signe de la croix et avança. Puis il ne perdit plus rien des chants. C'étaient des voix de femmes, des voix pures, suaves, fugitives. Il s'arrêta et retint son haleine pour écouter. C'était toujours la valse qu'on chantait, et on entendait aussi un frôlement de pieds sur la mesure, mais si faible, si léger, qu'aucun pied humain n'en aurait pu produire une semblable. Ses cheveux se dressaient sur sa tête, ses jambes fléchissaient sous lui. Cependant, il avança et écouta encore. On chantait des paroles. C'étaient des paroles qu'il se rappelait avoir faites lui-même sur cet air, dans la nuit où il s'était éloigné d'Anna. Il ne les avait jamais dites à personne, et cependant on les chantait. Quelques instants et la forêt déserte va pour moi seul être un palais riche et pompeux. Le chêne épais forme une tente verte, et sous ce toit frais parfumé nous serons deux. Signe orgueilleux de grandeur souveraine, rouge turban plissé sur la tête des rois, non, tu n'as pas l'éclat de ces tresses d'ébène qui couronnent son front et que nattent mes doigts. J'ai vu souvent, à des fêtes moins belles, briller dans les cheveux d'une femme à l'œil noir des diamants aux vives étincelles comme l'étoile bleue au ciel sombre le soir. J'aime mieux les glantines séchées dont ses cheveux tout un grand jour furent liés, et j'aime mieux la mousse encore penchée qui garde emprunt sur son velours ses petits pieds. Ces paroles, composées dans la forêt par Henri pendant sa route, n'avaient jamais été écrites. Lui-même les avait presque oubliées, et il les entendait sans que la chanteuse se trompât d'un seul mot. Il fit encore quelques pas, et au détour du sentier, il trouva une clairière tout entourée de hauts châtaigniers et mystérieusement éclairée par la lune. Il se tapit dans un buisson et put contempler un étrange spectacle. Des jeunes filles, vêtues de robes blanches et couronnées de fleurs, valsaient en chantant sur la mousse. Mais leurs robes blanches étaient plus blanches qu'aucune étoffe qu'on eût jamais vue. Leur couronne de fleurs semblait lumineuse. Leurs pas étaient si légers qu'on ne savait s'ils touchaient réellement la terre. Leurs voix suaves et mystérieuses ne paraissaient nullement gênées par le mouvement de la valse. Leurs visages, surtout, étaient d'une effrayante pâleur. Henri, alors, se rappela la tradition de la ronde des Willis, jeunes filles abandonnées par leur promis et mortes sans époux, qui, la nuit, dans les bois, dansent entre elles au clair de la lune. La valse s'arrêta un moment et Henri entendait le bruit des battements de son cœur. Quelques instants se passèrent à rajuster les couronnes de fleurs, puis on reprit les chants, et c'était encore la valse de Henri que l'on chantait. Les blanches filles s'enlacèrent deux à deux pour la valse. Une resta seule et jeta autour d'elle un long regard pour chercher une compagne. Sa taille était souple et élancée. Ses cheveux noirs étaient appliqués en bandeau sur son front. Ses yeux d'un bleu sombre avaient un regard tendre et mélancolique. Elle était couronnée de bruyères blanches. C'était Anna. Henri crut qu'il allait mourir. Anna s'avança vers le buisson qui cachait Henri et le prit par la main. La main d'Anna était froide comme un marbre. Henri n'avait pas la force de la suivre, mais une puissance surnaturelle le portait. On chanta. La valse recommença et Henri, toujours entraîné malgré lui, valsa avec sa fiancée. Puis un autre fantôme vint prendre Henri et valsa avec lui à son tour. À celui-ci succéda un troisième, puis un quatrième. Henri était exténué. Une sueur froide coulait sur son front, il était aussi pâle que les morts. Une cinquième morte le vint prendre, puis une sixième, et l'on pressait toujours le mouvement de la valse. Henri, épuisé, demi-mort de fatigue autant que d'effroi, voulait se laisser tomber sur l'herbe et ne le pouvait pas. Une force invincible l'entraînait et il valsait toujours. L'air ne pouvait plus entrer dans sa poitrine ni en sortir. Il étouffait, il voulait crier, il n'avait pas de voix. Alors Anna le reprit à son tour, et l'on pressa encore le mouvement de la valse. Mais Henri sentit que la robe blanche n'était plus remplie que des os d'un squelette. La main d'Anna, placée sur son épaule, entrait dans sa chair. Il la regarda, elle n'avait plus ses cheveux noirs en bandeaux. Il ne vit plus qu'une hideuse tête de mort, toujours couronnée de bruyères blanches. Il se débattait, le fantôme l'étreignait dans ses bras et l'entraînait dans un mouvement de valse d'une rapidité dont rien ne peut donner l'idée. Le lendemain, on retrouva dans la forêt le cadavre de Henri.